12 questions seront posées aujourd'hui au Parlement. Un Parlement majoritairement habillé en rose aujourd'hui pour la journée de la femme. Et on commence avec la première question du député PDC de Basse-Cour, Raoul Yéki.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, l'Office fédéral des transports a mis en consultation un projet de ligne ferroviaire à deux vitesses. Notre ligne Bâle-de-Lez-Montbienne ne serait pas une ligne premium, mais une ligne de seconde classe qui recevra du vieux matériel roulant et ne profitera pas de la cadence de desserte à la demi-heure. Si cela devait arriver, c'est tout le système des transports jurassiens qui sera touché et démantelé. Les Jurassiens sont-ils des citoyens de deuxième classe? Comment le gouvernement va-t-il réagir? Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède le micro à monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, monsieur le député, l'Office fédéral des transports a mis en consultation un projet de nouvelle perspective pour le trafic grande ligne avec deux catégories. Et la ligne qui nous concerne, la ligne de Bâle, Basse-Alémanique, part de Lez-Montmoutier, et donc n'est pas prévue dans la consultation en catégorie premium. Mais effectivement, par rapport à ça, est menacée d'avoir du vieux matériel roulant, d'avoir peut-être d'autres inconvénients. Et nous sommes inquiets par rapport à ça. Par contre, bien évidemment, que nous répondrons à la consultation en rappelant à l'Office fédéral des transports que cet office s'est engagé en 2015 aux côtés des CFF du canton de Bâle-Campagne et du canton du Jura pour rétablir une liaison directe entre Bâle et le Bassin-Lémanique à travers le Jura de Lez-Montmoutier. Et donc ceci sera rappelé bien évidemment. Nous allons également contester cette perspective d'avoir les grandes lignes qui soient mises en deux catégories, un peu comme en deux ligues, comme en football. Et nous souhaitons donc, nous allons donc demander à la Confédération, à l'Office fédéral des transports, de maintenir les grandes lignes comme elles le sont actuellement, qui n'ont pas à être discriminées entre elles, et ceci dans l'intérêt non seulement du canton du Jura, mais surtout de l'intérêt des transports publics au niveau de la Confédération, puisque le Jura n'est pas le seul à être touché si cette consultation devait perdurer dans le schéma tel qu'il est proposé. Et je tiens encore à signaler que le projet Rail 2000 prévoyait aussi à la base un doublement de la ligne entre Bienne et Bâle, qui n'a jamais été réalisé, contrairement à ce qu'avait donc validé le peuple suisse. Donc il y a tout un tas d'arguments historiques qui font que nous avons tous les droits pour revendiquer cette ligne premium, d'autant plus que c'est la liaison la plus courte entre Bâle et Genève. Donc la liaison la plus courte entre Bâle et Genève passe par l'Offont de Lez-Montmoutier-Grangenort. Voilà, monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Raoul Yéki est satisfait. Pour la deuxième question du jour, j'invite à la tribune madame la députée Mélanie Brulart.
Mélanie Brulart, députée socialiste de Delémont.
Monsieur le président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, je remercie toutes les personnes ici qui portent du rose ou du violet en signe de sensibilité à l'égalité des droits et dans les faits entre femmes et hommes et en solidarité avec les femmes qui souffrent d'injustice. Nous sommes désormais malheureusement habitués à entendre que les droits des femmes sont bafoués dans un grand nombre de pays. Cela commence avant la naissance avec les avortements sélectifs, puis l'accès difficile à la formation, le mariage forcé ou encore la parole d'une femme qui ne vaut pas celle d'un homme. La liste serait longue. Par contre, dernièrement, et nous n'y sommes heureusement pas habitués, les médias ont relaté des faits nouveaux en Occident. On est en train de remettre en question des droits que l'on croyait acquis. En Pologne, sans la mobilisation massive du peuple, on serait revenu à l'interdiction totale d'avorter. La Russie dépénalise les violences domestiques. Des propos à forte connotation misogyne sont prononcés sans complexe ni tabou par des élus. Les femmes sont toujours plus nombreuses à dénoncer le harcèlement sur la voie publique dont elles sont l'objet. Dans ce contexte, notre pays et notre canton doivent se montrer forts. Il n'est pas concevable que les droits des femmes acquis de longues luttes soient ainsi remis en question. L'État jurassien et sa déléguée à l'égalité ont pour but de réaliser l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines et d'éliminer toute forme de discrimination. Ce travail passe par le conseil et la formation ou encore la sensibilisation par des campagnes. Jamais les bureaux de l'égalité n'ont été aussi importants qu'aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement de progression, mais bien de ne pas régresser. Suite aux restrictions budgétaires et au déclassement du bureau en délégation, ainsi qu'à l'arrêt de la collaboration avec le canton de Berne pour l'antenne intercantonale de l'égalité, je pose la question suivante au gouvernement. Dans le contexte actuel, est-ce que la mission de la déléguée à l'égalité entre femmes et hommes peut être réalisée dans des conditions optimales ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, j'invite la présidente du gouvernement, Madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, donc présidente du gouvernement.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, la date du 8 mars est journée internationale des femmes chaque année depuis 1975. Il convient toutefois de se rappeler qu'en 1911, déjà, la première journée internationale des femmes est célébrée en Suisse, de même qu'en Allemagne, en Autriche et au Danemark. De nombreuses femmes, mais aussi de nombreux hommes, prenaient part à ces rassemblements. Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. Aujourd'hui, ces revendications restent d'une brûlante actualité, bien malheureusement. On peut s'énerver ou s'étonner ou rire peut-être du rabâchage annuel du 8 mars sur la condition des femmes dans le monde et sur l'égalité entre les sexes. Mais cette journée est assurément l'occasion de rappeler le chemin à parcourir pour que se réalise l'égalité dans les faits entre les femmes et les hommes. Tant que cela ne sera pas atteint, il sera nécessaire de la célébrer. Pour rappel, en 1979, la Constitution jurassienne instituait à son article 44 le bureau de la condition féminine dont les tâches étaient d'améliorer la condition féminine, de favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité et d'éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet. Aujourd'hui, effectivement, et comme vous l'avez mentionné, Madame la députée, le bureau a été supprimé et sa responsable est devenue depuis 2016 déléguée à l'égalité avec un rattachement à la chancellerie. Malgré cette évolution, la déléguée poursuit son travail guidé par deux axes centraux. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie et éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Pour ce faire, la déléguée et son équipe intervient dans différents champs d'action, que cela soit dans le monde scolaire et les choix professionnels qu'il comporte, la conciliation emploi et famille, la violence domestique ou encore la représentation des femmes dans les instances politiques. Dans ces différents champs, la déléguée à l'égalité déploie des actions en collaboration étroite avec d'autres services de l'administration, d'autres organismes jurassiens et ses commissions ad hoc. J'en rapporte ici une sélection. Il y a notamment la campagne de promotion pour les métiers technico-féminins, il y a l'organisation de la journée JOM, journée Oser tous les métiers, il y a différents colloques organisés sur, par exemple, le job sharing en 2015 et en 2016 sur l'égalité salariale. La déléguée participe également au groupe de coordination violence. Elle collabore également avec l'AJAM. Elle organise des modules de formation destinés aux femmes intéressées à entrer en politique et pour celles qui sont déjà engagées en politique. Elle coordonne également la loi sur la prostitution. Elle organise des petits déjeuners réseau durant lesquels il y a des échanges sur une thématique particulière et forcément en lien avec l'égalité. Elle publie une revue annuelle sur une thématique particulière. Et enfin, elle organise une remise de prix par le gouvernement, un pas vers l'égalité tous les deux ans. Si l'esprit pionnier de la jeunesse du canton s'est certes un peu étiolé avec le temps, l'État jurassien se doit de maintenir les acquis et de garder son énergie d'innovation. La déléguée à l'égalité, quel que soit son statut dans l'administration et sa position dans l'organigramme, doit pouvoir continuer à remplir sa mission dans les différents domaines mentionnés. Et au vu de l'activité énoncée, le gouvernement a le sentiment que les attentes légitimes en lien avec les questions d'égalité sont toujours très bien remplies. J'espère avoir pu vous rassurer, Madame la députée, quant à la mission et à l'efficience des actions menées par la déléguée à l'égalité. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame la Présidente du gouvernement. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Mélanie Brulart est satisfaite. Pour la troisième question du jour, j'invite à cette tribune Monsieur le député Alain Schweingruber.
Pour la troisième question sur 13 aujourd'hui, le député de Boïcourt, Alain Schweingruber, PLR.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, je vous parle d'un sujet que les moins de 20 ans de fonction parlementaire et gouvernementale ne peuvent pas connaître, ou si peu. je parle des valeurs officielles. Et je peux rassurer le gouvernement, je ne le tarabuste à ce sujet que tous les 15 ou 20 ans à peu près. En fait, le problème est simple et est le suivant. L'article 1er, alinéa 2 du décret sur la révision des valeurs officielles précise qu'une telle révision doit intervenir en principe tous les 10 ans. La dernière révision linéaire, qui n'en était en fait même pas une, date de 2001. Elle faisait suite à l'initiative populaire que nous avions déposée à l'époque. Et la précédente datait de 1997, donc il y a 20 ans. Et ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il proposer au Parlement une révision générale des valeurs officielles des immeubles? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole au ministre Charles Juillard.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, nous sommes presque dans le timing, monsieur le député, puisque vous l'avez rappelé, la dernière révision générale des valeurs officielles date d'il y a à peu près 20 ans, qu'il y en a une intermédiaire qui était pas tout à fait une révision officielle, mais une adaptation de ces valeurs par rapport au marché, ce qui me permet de rappeler qu'en effet, les valeurs officielles doivent avoir un lien avec la valeur de marché des immeubles. Et si nous n'y avions pas pensé, monsieur le député, je vous remercie de nous avoir rappelé, parce qu'on cherche toujours des sources de revenus supplémentaires, et je pense que là, c'en est peut-être une qui, notamment en fonction des immeubles neufs ou récemment construits, pourrait voir certainement leur valeur augmenter, et donc la taxation de ceux-ci aussi. Et j'imagine que les membres de votre association sont très heureux de votre intervention, de nous avoir rappelé qu'il fallait procéder à cette révision. Mais cela dit, je ne veux pas préjuger du résultat. Simplement, nous avons déjà réfléchi deux fois au niveau du département des finances pour savoir si nous allions mener une révision totale ou si nous allions peut-être adapter certaines valeurs, parce que nous sommes en train d'imaginer de faire des sondages par catégorie d'immeubles, pour voir s'il y a véritablement des changements notoires qui sont intervenus depuis la dernière révision, notamment celle de 2001. Cas échéant, eh bien, nous procéderons à une révision totale, mais je ne vous cache pas que c'est un immense chantier, que la dernière, celle d'il y a 20 ans, avait duré au moins 5 ou 6 ans pour pouvoir arriver au bout complet, et qu'il y avait fallu évidemment des moyens supplémentaires au sein de l'État pour procéder à ces révisions, avec des renforts aussi extérieurs par rapport à des estimateurs qui allaient vérifier parfois des renseignements un peu qui paraissaient bizarres fournis par les propriétaires eux-mêmes, et que nous allons justement faire cette pesée d'intérêts. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réelle différence entre la valeur de marché et la valeur officielle des immeubles avant de nous lancer dans cette immense opération qui, comme je l'ai dit, pourrait nous amener encore assez loin dans le temps et qui requerrait des moyens énormes? Mais nous sommes en train de, comme je disais, d'étudier cette question, de savoir comment nous allons procéder, parce que nous n'entendons pas, évidemment, nous soustraire à la loi.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Alain Schweingruber est satisfait. Pour la question suivante, j'appelle à la tribune monsieur le député Thomas Stettler.
Thomas Stettler, député UDC de Kourou, qui va prendre la parole.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, il y a quelque temps déjà, la presse nous apprenait que la famille Choula de Courtemèche était contrainte de quitter la Riantageoire pour élever ses poissons sur la Sorne pour des raisons de température d'eau. On imagine combien cette décision était mûrement réfléchie, sachant qu'il faut des arguments bien étayés pour déplacer un commerce familial de la Joie à la vallée. Personnellement, je me suis réjoui de voir que ce savoir-faire peu courant allait être pérennisé dans une nouvelle exploitation. Je n'y voyais que des arguments gagnants. Quoi de mieux que de sauvegarder des emplois? Quoi de mieux que de diversifier notre économie? Quoi de mieux qu'une production alimentaire locale, saine et respectueuse de l'environnement? Quoi de mieux qu'une exploitation familiale exemplaire? Un fleuron d'Ajoie, m'a-t-on dit. un pied de nez à l'industrie globalisée qui vide les mers et leurs ressources. Pourtant, quelques résistants s'opposent avec acharnement à ce projet. C'est leur droit. Par contre, je ne peux pas laisser passer les courriers de lecteurs de ces mistons, qui par leurs propos méprisants et diffamatoires, traitent de pollueurs et d'inconscients les porteurs du projet. Si le gouvernement n'apporte pas le soutien à ce projet, pourtant en parfaite adéquation avec notre Office de l'environnement, je crains que la famille Choula pourrait se tourner vers d'autres cieux. Alors vos truites, vous pourrez à l'avenir les importer, et le poisson du Jura sera désormais gaulois. Je demande donc au gouvernement ce qu'il attend pour aider ce projet à se réaliser. D'avance, je le remercie de sa réponse.
Merci, monsieur le député Thomas Stettler. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole au ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, le gouvernement n'attend rien pour soutenir ce projet, puisque le gouvernement soutient ce projet, étant donné que c'est un projet qui a été salué de par son approche globale, puisque le projet de pisciculture à Courtetel était lié aussi au démantèlement des deux autres piscicultures à Courtemèche et à Grand-Gour, également à une réaffectation de la pisciculture de Soubé qui serait orientée plus dans l'alvinage et la production de juvéniles. Et bien évidemment que ce projet a été toujours discuté avec l'Office d'environnement. Il répond à toutes les exigences légales. Il est perçu comme un projet qui est important au niveau cantonal puisqu'il permet d'avoir une nouvelle pisciculture à Courtetel moderne avec des mesures écologiques qui sont saluées par l'Office d'environnement et qui permet justement de désaffecter ces anciennes piscicultures qui sont peut-être moins aux normes par rapport aux standards actuels. Par contre, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a eu des oppositions au permis de construire. Et suite à ces oppositions, des séances ont eu lieu entre les promoteurs, les opposants et l'Office de l'environnement. À l'issue de ces séances, des mesures complémentaires ont été admises par les promoteurs, notamment un système d'alarme en cas de défaillance, notamment un suivi écologique avant le projet et après le projet pour vérifier que ce qui est attendu du projet correspond bien à la réalité. Et malheureusement, malgré cela, les opposants ont fait recours au tribunal contre le permis. Donc là, l'État ne peut rien faire d'autre que d'attendre la décision du tribunal et constater que les promoteurs sont un petit peu déçus d'avoir été à la table des négociations suite aux oppositions, d'avoir été conciliants, d'avoir fait des pas en faveur de ce que voulaient les opposants et que malgré cela, des recours ont été déposés. Donc effectivement, on perçoit une petite déception du point de vue des promoteurs, mais le gouvernement reste en appui, reste favorable à ce projet.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Thomas Stettler est satisfait. Pour la cinquième question du jour, j'appelle à la tribune monsieur le député Philippe Egertuler.
Philippe Egertuler, élu PCSI de Porrentruy.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, les chiffres qui ont été présentés par la presse dernièrement montrent que le canton du Jura, malgré une baisse sensible du nombre d'accidents mortels depuis 30 ans, les jeunes jurassiens sont encore trop souvent victimes d'accidents de la route. Différentes explications sont nommées pour comprendre ces tragédies. Routes sinueuses, manque de transport public, vitesse inadaptée, mais aussi manque de moyens de répression. S'il est vrai que ces causes sont des facteurs à prendre en considération, celle de la prévention ne semble pas être mentionnée. En effet, une campagne de prévention routière attire l'attention sur les dangers de la circulation et renforce la sécurité par l'information et la communication. Dès lors, le gouvernement peut-il nous dire s'il envisage de faire une campagne de prévention routière afin d'informer les automobilistes et principalement les plus jeunes, des dangers de la route et de ses conséquences? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, la parole est à la présidente, madame la ministre Nathalie Barthoulot.
La ministre de l'Intérieur, Nathalie Barthoulot.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, j'ai également pris connaissance, comme vous, monsieur le député, de l'article qui est apparu dans le quotidien jurassien de samedi dernier. Afin de tempérer toutefois les titres et les schémas quelque peu sensationnalistes de cet article, je relève que Tout type d'accident confondu, les jeunes conducteurs jurassiens sont meilleurs que la moyenne nationale et qu'ils causent relativement peu d'accidents. Il n'en demeure pas moins que la question des accidents des jeunes conducteurs jurassiens est une préoccupation du gouvernement. Les mesures de prévention sont multiples et dépendent principalement du service de la santé et de la police cantonale. S'agissant du service de la santé, des mesures de prévention des accidents de la route auprès des jeunes sont actuellement développées dans le cadre du plan cantonal Addiction 2014-2024. Par exemple, Be My Angel, désolé pour l'anglicisme, est un programme de prévention alcool, drogue et sécurité routière destiné spécifiquement aux 16-25 ans. Il est basé, comme vous le savez, sur le concept du conducteur sobre choisi en début de soirée et qui raccompagne ses amis à la maison. Un autre exemple est l'offre de transport public développée avec le Noctambus qui fournit aux jeunes une alternative intéressante à la voiture individuelle. Plus généralement, des mesures de prévention globale de la consommation d'alcool et de drogue sont également mises en place à destination des jeunes avec des actions dans différents lieux, que ce soit dans les écoles, dans les espaces jeunes ou encore dans les clubs sportifs. Différents acteurs, dont la Fondation de Addiction Jura, les infirmières scolaires ainsi que les médiatrices et les médiateurs scolaires sont les partenaires principaux de cette prévention. La police cantonale dispose quant à elle d'un groupe d'éducation routière de 2 policiers à plein temps qui ne se limitent pas à enseigner les règles de la circulation routière aux très jeunes cyclistes. Ces 2 agents dispensent également des cours de prévention routière au niveau du secondaire 2. Ainsi, en 2016, ce sont 104 leçons de prévention routière qui ont été dispensées à plus de 800 élèves âgés entre 17 et 20 ans, tous en 3e année de formation dans le niveau post-obligatoire. La police cantonale a également récemment mis sur pied, en collaboration avec le service des infrastructures, une campagne d'affichage intitulée « Boire ou conduire, il faut choisir ». Elle publie également régulièrement des messages de prévention routière sur sa page Facebook, dont les lecteurs sont avant tout les jeunes de notre région. Finalement, et pour répondre précisément à votre question, monsieur le député, les polices cantonales romandes sont en train de développer, sous l'égide de la police cantonale vaudoise, une nouvelle campagne de prévention concernant l'alcool au volant. Cette campagne, qui sera activée durant la 2e moitié de cette année, sera prioritairement déployée sur les réseaux sociaux. Elle ciblera donc avant tout les jeunes conductrices et conducteurs. La police cantonale jurassienne va bien sûr participer activement à cette campagne de prévention de concert avec les autres polices romandes. Monsieur le député, j'espère ainsi avoir répondu à votre inquiétude légitime et vous avoir démontré que la question de la prévention n'est pas un vain mot pour les acteurs concernés et surtout que le gouvernement a à cœur d'encadrer autant que possible les jeunes conducteurs de notre canton. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Philippe Egger-Schuller est satisfait. Pour la prochaine question, j'invite à la tribune Madame la députée Françoise Chéniat.
Françoise Chéniat, démocrate chrétienne qui vient du Noirmont. Nous arrivons à la moitié de ces questions orales de ce matin.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés. Dans nos villages franc-montagnards, les rues les plus animées la nuit ne sont plus celles où se trouvent les cinémas, les restaurants ou autres lieux de loisirs. Ce sont celles où se trouvent les banques. L'année dernière, Franche-Montagne-Ouest, 3 banques, 3 cambriolages, dont 2 à la dynamite et une tentative avec des gaz importants. À chaque fois, les voleurs ont pris la fuite direction Le Doubs, sur route sinueuse de 12 km, dont 8 sur sol suisse. Lors de la dernière tentative, la Raiffeisen au Noirmont, les malfrats ont opéré pendant 20 minutes avant de prendre la fuite. Ils ont été filmés par des riverains pendant leur besogne délictueuse. Je comprends qu'il ne peut pas y avoir des policiers dans chaque village. Je comprends que les équipes ne peuvent pas être partout à la fois. Envisageons donc d'autres solutions. Dans les villes, les rues piétonnes sont fréquemment barrées à la circulation par des plots rétractables. Ne serait-il pas possible d'en poser sur les routes menant aux frontières des plots ou des herses qui pourraient être activées depuis les postes de police dès l'alarme? Je pense même que ceci pourrait être financé par la Confédération qui fait des économies en ne mettant plus de douaniers à ses postes de douane. Les voleurs, eux, sont ingénieux pour freiner les forces de l'ordre à leur poursuite. Ils abattent des arbres pour barrer la route. Soyons aussi malins qu'eux. Je demande au gouvernement s'il est prêt à étudier cette proposition ou une autre et le remercie de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à notre présidente, Madame la ministre Nathalie Bartolo.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, votre idée, Madame la députée Chénia, peut paraître de prime abord relativement séduisante. Elle se heurte toutefois très vite aux dures réalités techniques, financières, opérationnelles et voire même politiques. Je vous propose de prendre comme exemple le passage de frontière à la Goule qui a été utilisé à quelques reprises comme chemin de fuite ces dernières années par plusieurs cambrioleurs. D'un point de vue technique, l'installation de plots rétractables commandés à distance à la Goule serait particulièrement complexe, que ce soit au niveau du système de communication des commandes ou de la résistance aux intempéries, en particulier à la neige et au gel. De plus, il est très probable que les cambrioleurs trouveraient très rapidement un moyen de franchir ces obstacles, par exemple à l'aide de véhicules béliers ou de rampes. La récente tentative de cambriolage du bancomat de Miécourt et l'épisode des arbres coupés au travers des routes d'accès démontrent que les auteurs de ce genre de délit ne manquent pas d'imagination pour contrecarrer les plans des forces sécuritaires. Du point de vue financier, le coût d'une telle installation serait de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs. Si l'on multiplie ce chiffre par les 80 chemins qui sont utilisables sans difficulté par un véhicule sur le territoire jurassien, vous constaterez, Madame la députée, que l'on arrive à des montants très importants, voire probablement trop importants. Du point de vue opérationnel, cette manière de faire pourrait représenter un risque important pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Imaginez un automobiliste qui circulerait en direction de la France et qui se retrouverait coincé à la Goule entre à l'avant de sa voiture les plots rétractables que vous préconisez et à l'arrière le véhicule des cambrioleurs armés et en fuite. Probablement que cet automobiliste se souviendrait longtemps de son passage à la Goule. Finalement, d'un point de vue politique et sous réserve d'un examen juridique plus approfondi, je doute qu'il soit possible de bloquer, même momentanément, un passage de frontière sans entrer en préalable en négociation avec l'État français. Voilà, Madame la députée, vous nous aurez donc compris que j'estime que votre suggestion est une fausse bonne idée et si elle est séduisante de prime abord, elle est quasiment impossible à mettre en œuvre dans la réalité.
Merci, Madame la ministre. Votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Françoise Chénia est satisfaite. Pour la prochaine question, j'invite à la tribune Madame la députée Rosalie Beuret.
Rosalie Beuret, députée socialiste de Porrentruy, qui pose la 7e question de cette heure de questions orales.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, un ami fort avisé m'a dernièrement fait remarquer, alors que nous discutions sur l'égalité entre hommes et femmes, « Si vous ne dites rien, on ne vous demandera pas de le répéter. » Ainsi, je le répète à propos de l'égalité entre hommes et femmes dans notre canton et plus généralement en Suisse. Des dispositions constitutionnelles existent, mais on fait comme si elles n'existaient pas. Pour des raisons incompréhensibles, cela ne peut se faire que doucement, lentement, par étapes successives. Tellement prudemment qu'à ce rythme, la différence salariale sera gommée en 200 ans. Il faut bien que je le redise parce qu'à l'évidence, on ne nous demandera pas de le répéter. En ce 8 mars, journée internationale de la femme, ma question a pourtant trait à une autre revendication. Qu'en est-il de la présence des femmes aux plus hautes responsabilités publiques ? Si, avec bonheur, on constate que les femmes ont investi l'institution judiciaire et disposent désormais d'une représentativité équitable, quelles mesures peuvent être envisagées qui soient, à compétences égales, à même d'augmenter leur présence à la tête de sections, d'offices et de services cantonaux ? Nous avons, à bon droit, l'habitude de questionner la Confédération sur les volumes de commandes publiques qu'elle passe aux régions linguistiques. Par analogie, il me semble légitime de nous préoccuper de manière aussi répétitive de l'accession des femmes aux fonctions directoriales de notre administration cantonale. Je remercie le gouvernement de son appréciation.
Merci, Madame la députée. Et pour la réponse du gouvernement, c'est à nouveau Madame la présidente du gouvernement, Madame la ministre Nathalie Bartolo.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, L'accession des femmes aux postes de cadre est une préoccupation constante du gouvernement depuis de nombreuses années. Et en cette journée toute particulière du 8 mars, cette question connaît une actualité encore plus particulière. On le sait, ce fameux plafond de verre est l'illustration parfaite du cloisonnement vertical qui s'opère entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Les causes sont à chercher dans la répartition traditionnelle des tâches, désignant encore trop souvent le père comme le pourvoyeur de la famille et donc comme la personne qui occupe un emploi rémunéré en dehors de la sphère familiale. Aujourd'hui encore, les femmes cadres ne sont pas nombreuses dans le monde du travail en Suisse. Selon l'Office fédéral de la statistique, en 2015, 35% des femmes salariées occupaient une fonction dirigeante. Plusieurs études ont été menées à ce sujet, d'une part pour connaître l'état de la situation et d'autre part pour explorer différentes pistes permettant d'améliorer cet état de fait. Force est de reconnaître que notre canton n'est pas en avance dans ce domaine, bien au contraire. Voici quelques chiffres. Si l'on regroupe dans une seule catégorie de cadres toutes les personnes en dessus de la classe 15, excepté les enseignantes, les femmes représentaient 27% des EPT en 2016. Et par ailleurs, force est de constater que plus on monte dans les classes de traitement, plus la situation se dégrade. En effet, si l'on regroupe les femmes chefs de service et chefs de secteur, à l'exception des juges et des procureurs, on obtient alors 18% d'EPT occupés par des femmes. Seule la justice fait bonne figure, avec 50% d'EPT, tout poste de responsable confondu. Si l'on regroupe de manière générale toutes les femmes qui ont des responsabilités hiérarchiques, y compris les juges et les procureurs, on culmine à 23% d'EPT, un pourcentage bien en dessous des autres cantons romands, puisque Genève, par exemple, totalise un 38% pour la même catégorie. Toujours pour l'État jurassien employeur, dans un contexte particulier et pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, nous avons perdu, entre guillemets, 3 femmes chefs de service l'année passée, ce qui n'arrange pas le constat posé que les femmes sont insuffisamment représentées dès que l'on monte dans la hiérarchie de la République et canton du Jura. Cette situation n'est malheureusement contrebalancée que par la nomination d'une chef de service en partage de poste avec un homme à la tête du service de l'action sociale en 2016. Si cette collaboration semble fonctionner par une belle complémentarité entre les personnes, elle n'en est encore hélas que trop rare. Ce partage de poste, on le retrouve uniquement à la police cantonale où les 2 adjoints, également un homme et une femme, se partagent un poste à responsabilité à 50%. Ainsi, le Jura pionnier dans bien des domaines il y a 30 ans, puisqu'il était le premier canton à se doter d'un bureau de l'égalité, se situe à la traîne dans le domaine de l'accession des femmes à des postes de cadre. Nous devons et pouvons mieux faire. Le travail à temps partiel chez les cadres permettrait aux femmes de grimper dans la hiérarchie. Le télétravail, s'il n'est certes pas non plus la panacée, représente également une possibilité intéressante, favorisant une articulation plus aisée entre la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà quelques ingrédients qui nous permettront sans doute de redresser la situation avec votre soutien. Tous les éléments que je viens d'évoquer seront discutés ici au Parlement dans le cadre de révision de la loi sur le personnel, projet qui vient de démarrer. Le travail à temps partiel, le télétravail, le partage de postes et éventuellement une mention dans les postulations pour favoriser les femmes. Bref, les idées ne manquent pas et il faut nous obliger à porter une attention encore plus grande à cette question fondamentale de représentation des femmes dans l'administration publique aux postes à responsabilité. Et Madame la députée, merci de dire et de redire souvent, comme vous l'a suggéré votre amie, cette nécessité de voir accéder des femmes à des postes à responsabilité.
Merci, Madame la Ministre. Votre appréciation, Madame la députée. Madame la députée Rosalie Beuret est satisfaite. Pour la 8e question du jour, j'appelle à cette tribune Monsieur le député Alain Lachat.
Alain Lachat, député PLR qui vient de Frégicourt.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, le journal officiel relève, dans les publications des autorités judiciaires, les ordonnances pénales édictales suite au rapport des dénonciations de la police cantonale, des CFF ou du corps des gardes-frontières, par exemple. Chaque ordonnance détaille le nom, la filiation, l'infraction et la condamnation de la personne dénoncée par le ministère public. Pour les coupables étrangers, il est mentionné actuellement de domicile inconnu ou simplement de domicile inconnu. Le citoyen jurassien ne comprend pas et se pose des questions quant au traitement de la procédure légale liée en particulier à l'encaissement des amendes. Les discussions et commentaires vont bon train et sur les encaissements de ces amendes qui reviennent dans les caisses de l'État jurassien ou sur les annulations ou suppressions de celles-ci.
La population jurassienne manque d'informations sur les procédures, ce qui provoque des critiques envers la loi ou les lois en vigueur. D'où ma question, le gouvernement peut-il nous renseigner sur les procédures pour l'encaissement des amendes prononcées ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député Alain Lachat, pour la réponse du gouvernement. La présidente, madame la ministre, Nathalie Bartolo.
Nathalie Bartolo, décidément sollicitée ce matin.
Effectivement, journée de la femme oblige, je suis beaucoup à cette tribune aujourd'hui. Bien, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie, monsieur le député, pour votre question qui me permet de rappeler les tribulations d'une amende, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté décernée à l'encontre d'une personne de domicile inconnu. Je précise par rapport à votre question, qu'elle soit de nationalité suisse ou étrangère, cela ne change absolument rien au traitement. Dans un premier temps, la police cantonale va tenter d'établir l'adresse par les différentes bases de données dont elle dispose. Par exemple, pour les automobilistes français et sur la base d'accords internationaux, elle obtient des renseignements des bases de données du Centre national de traitement des amendes à Rennes. Si malgré ces recherches, l'adresse du fautif ne peut pas être établie, la police cantonale transmet un rapport de dénonciation au ministère public en indiquant l'impossibilité d'établir l'adresse. L'autorité de jugement effectue également des recherches et, si elles sont vaines, publie alors une condamnation édictale au journal officiel. Si la peine qui est prononcée est une peine privative de liberté ferme, la condamnation est transmise au service juridique qui publie le jugement à Ripoll, soit sur la base de données de toutes les forces sécuritaires suisses. Si l'individu se fait contrôler par un policier suisse ou par un garde-frontière, il est immédiatement arrêté pour purger sa peine. Si la peine qui est prononcée est une peine pécuniaire, sans sursis ou une amende, le jugement est transmis par l'autorité judiciaire à la recette et administration de district. Si la recette n'arrive pas, elle aussi, à encaisser les montants dus en raison de l'impossibilité à déterminer l'adresse de la personne condamnée, elle demande alors au service juridique de prononcer une peine privative de liberté de substitution. En d'autres termes, l'amende ou la peine pécuniaire non payée est transformée en une peine ferme de privation de liberté et un signalement à Ripoll est également effectué. Là aussi, si l'individu est contrôlé par un policier ou un garde-frontière, il doit soit immédiatement payer les montants dus, soit immédiatement purger la peine de substitution avant d'être lâché. J'ajouterai finalement qu'il ne se passe pas une semaine dans le canton du Jura sans qu'une personne contrôlée par les policiers ou les gardes-frontières ne doive payer séance tenante une amende ou une peine pécuniaire en raison de la publication de son identité à Ripoll. Les mises immédiates en prison pour les raisons que je viens d'expliquer sont également relativement fréquentes. Voilà, monsieur le député, vous constaterez par ces quelques explications que les publications édictales au journal officiel ne sont qu'une étape d'un processus relativement complexe et complet voulu par le législateur fédéral et qui a pour unique but qu'un minimum de personnes ayant commis des infractions ne passent à travers les filets de l'exécution des peines. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, madame la ministre. Votre appréciation, monsieur le député. Monsieur le député Alain Lachat est satisfait. Pour la prochaine question, j'appelle à cette tribune monsieur le député Claude Gerber.
Claude Gerber, élu UDC de Porrentruy.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame, messieurs les ministres. Un sale coup pour l'agriculture jurassienne. En croire les médias de ces derniers jours, rien ne laissait penser, lors de l'Assemblée de la Chambre jurassienne d'agriculture de vendredi passé, que l'agriculture jurassienne se verrait dassénée d'un coup de couteau dans le dos. Ben voilà qu'une production typiquement jurassienne, avec son savoir-faire et son patrimoine, se voit confrontée à des problèmes suite à des décisions purement financières concernant le démantèlement du haras d'Avanches. Je ne prendrai pas tous les faits relatés dans les médias, mais je partage les inquiétudes exprimées quant à la sauvegarde de ce site. Ma question au gouvernement, puis-je avoir l'assurance du gouvernement, via nos représentants aux chambres fédérales, mettra toute son énergie pour défendre le maintien de cette station du haras d'Avanches, ô combien important pour tous les éleveurs de chevaux. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, la parole est donnée au ministre Jacques Gerber.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues,
Effectivement, nous avons appris ce lundi que la station de recherche Agroscope menait des restructurations. Nous n'en connaissons actuellement encore pas l'ampleur. Nous n'avons également pas d'informations quant aux conséquences financières de ces restructurations. Vous avez également certainement pu lire que le président de l'association suisse franc-montagnard va regrouper l'ensemble des acteurs de la filière pour tout d'abord prendre connaissance des restructurations actuellement en réflexion et ensuite définir les mesures à prendre. Cela dit, le service de l'agriculture a également fait des demandes très précises à l'Office fédéral de l'agriculture. Nous attendons encore des réponses de la part de cet office. Mais évidemment, le gouvernement fera tout pour sauver et soutenir la race des Franches-Montagnes et évidemment soutenir les éleveurs jurassiens de cette race.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député?
Satisfait.
Monsieur le député Claude Gerber est satisfait. Pour la prochaine question, j'invite à la tribune monsieur le député Vincent Hénin.
La 10e question de ce jour sera posée par Vincent Hénin, député PCSI de Montfaucon.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, je vais prendre la suite de ma collègue Françoise Chénia et parler de sécurité qui concerne tout particulièrement les Franches-Montagnes et aussi la Joie. La sécurité de nos citoyens et de nos biens est-elle garantie en l'état? Préambule sur l'organisation du service de la gendarmerie cantonale jurassienne. Les régions de la Joie et des Franches-Montagnes sont réunies au sein d'une seule section. La nuit et les week-ends, principalement et sauf exception, une seule brigade d'intervention est dévolue à cette entité pour assurer toutes les tâches. En décembre dernier, une tentative de cambriolage s'est déroulée dans un commerce des Franches-Montagnes. Durant la nuit, les propriétaires des lieux ont eu la désagréable surprise de se trouver nez à nez avec une personne qui tentait de s'introduire dans leur local commercial. Ils sont parvenus à la retenir, cette personne incriminée, et ont fait appel au 117. Le temps d'intervention pour l'occasion a été d'environ 45 minutes. Je vous passe les détails rocambolesques de l'incident. En regard des nombreux cambriolages et autres incidents qui ont lieu sur notre territoire, et à la lecture des comptes rendus, le citoyen se pose légitimement la question de sa sécurité, notamment en vertu du délai d'intervention inhérent aux distances à parcourir. À la lecture des médias locaux, l'idée germe actuellement au sein de notre police cantonale de créer une unité sur deux roues. Je ne doute pas du sens éducatif recherché, mais ceci me laisse un peu dubitatif sur certaines priorités. Ma question est simple. Est-il envisageable de revoir l'organisation de la gendarmerie cantonale afin d'allouer à chaque district une brigade permanente afin d'être un tantinet plus réactif, efficace et certainement aussi dissuasif face aux problématiques actuelles? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, sa présidente, madame la ministre, Nathalie Bartolo.
C'est la 6e fois aujourd'hui que la ministre de l'Intérieur monte à la tribune.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Hénin, je dois vous l'avouer, je ne partage pas votre point de vue sur l'insuffisance de l'effectif policier, en particulier dans les Franches-Montagnes et en particulier la nuit. En effet, à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la réforme police 2015, la présence policière dans les Franches-Montagnes a été démultipliée. Par exemple, la dotation des policiers stationnés au poste de seigneur-légier est passée de 2 à 6 équivalents plein temps. Pour des questions évidentes de sécurité, je ne souhaite pas et je ne peux pas développer à cette tribune le maillage sécuritaire qui est mis en place toutes les nuits sur notre territoire. Je peux cependant vous affirmer et vous confirmer que ce sont en permanence entre 3 et 7 patrouilles qui sont prêtes à intervenir en urgence sur l'ensemble du territoire jurassien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Entre 3 et 7 patrouilles. Ces patrouilles sont issues non seulement de la police cantonale, mais également du corps des gardes frontières et des polices municipales de Porrentruy et de Lémont. En effet, la nouvelle ordonnance sur la collaboration entre les communes et la police cantonale, qui est entrée en vigueur au 1er mars dernier, indique qu'en cas d'indisponibilité des patrouilles de la police cantonale, ce sont les patrouilles des polices municipales de Porrentruy et de Dolémont qui peuvent dorénavant intervenir également sur l'ensemble du territoire jurassien. Voilà, monsieur le député, la nouvelle organisation de la police cantonale donne pour le moment entière satisfaction et il n'est pas prévu de la modifier prochainement, notamment pour augmenter le nombre de patrouilles de police secours qui est suffisant du point de vue du commandement de la police cantonale et du gouvernement également. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Hénin n'est pas satisfait. Pour la question suivante, j'appelle à la tribune monsieur le député Yves Gigon.
Yves Gigon, élu PDC de Courgenay.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, pour le souper de fin d'année, nous avons appris que le tribunal cantonal est allé dans un restaurant en France. Bien que cet agape était à leur charge, ce n'a pas le don de rapprocher la justice de la population jurassienne. Il y a dans le Jura des restaurateurs contribuables jurassiens. Nous avons appris également que la prison de Porrentruy s'est équipée de petits matériels d'agrément dans un magasin en France pour une somme modique, soit, mais que ce soit 30, 35 ou 40 euros, il y a dans le Jura des contribuables et des magasins jurassiens. Le montant peut paraître ridicule, mais c'est une question de principe. Est-ce que le gouvernement peut confirmer ces faits et ne juge-t-il pas qu'ils ne sont pour le moins maladroits ? Entretenir de bonnes relations avec nos amis français, c'est bien, mais préserver les intérêts jurassiens, c'est mieux.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole au ministre Charles Juillard.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement peut confirmer les faits. Et sur le premier point, à savoir le lieu de destination du repas de fin d'année, comme vous l'avez rappelé très justement et heureusement, à charge des participants du tribunal cantonal, je crois qu'ils ont, cela dit, apparemment fait un bon choix, hein, puisque je vous rappelle que ce cuisinier avait été opposé il n'y a pas si longtemps que ça à un match contre notre cuisinier national à Paris, désolé, mais c'était quand même le Suisse qui avait gagné, pas le match de foot qui suivait, mais le match de cuisine. Et c'est chez ce cuisinier-là, qui par ailleurs est suisse d'origine, mais qui a dû s'expatrier parce qu'il n'avait pas de travail en Suisse et qu'il est allé en trouver en France. Vous voyez, comme quoi parfois ça arrive aussi. Ensuite, pour vous dire que c'est sur leur temps de travail, et je pense que parfois une autorité comme la justice a peut-être aussi intérêt à prendre un peu de recul et puis à ne pas forcément se retrouver mélangé avec la population s'ils veulent un peu parfois se lâcher à table, un peu discuter entre eux sans qu'il y ait forcément des oreilles de citoyens jurassiens pour toujours écouter ce qui se dit autour de ces tables. Et je crois que c'est heureux. Le Parlement l'a fait aussi et je peux tout à fait comprendre que ça se fasse. Le gouvernement le fait parfois, mais heureusement, nous ne l'avons pas encore fait cette législature. Donc, cela dit, je crois qu'aller jusqu'à vouloir réduire la liberté personnelle des employés de la fonction publique jurassienne à ce point, je ne crois pas que ce soit ni judicieux et de toute façon pas légal, et vous le savez pertinemment. Ce qui concerne le deuxième élément, à savoir l'acquisition de deux raquettes de ping-pong et d'un sac de balles de ping-pong pour effectivement la tour qui sert de promenade à Porrentruy. Il faut savoir que les prisonniers en font une large consommation, c'est vrai. Alors nous avons vérifié et nous avons donné des instructions pour que la prochaine fois, eh bien, ces balles et ces raquettes soient achetées au meilleur prix suisse en Suisse.
Merci, monsieur le ministre Charles Juillard. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est satisfait. Monsieur le député Philippe Rotet, qui s'était inscrit pour la 12e question, l'a retiré car déjà posée. Dès lors, nous pouvons passer à la 13e et dernière question du jour. Et pour ce faire, j'invite à la tribune monsieur le député Damien Lacha.
Dernière question donc posée ce matin par le Damien Lacha, député UDC de Basse-Cour.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres,
Cela n'aura échappé à personne. Lorsque le gouvernement débloque des fonds ou un crédit, il y a toujours un communiqué de presse mettant en avant l'exécutif. Mais la plupart du temps, pour les gros montants, c'est le Parlement qui les débloque. Cependant, le Parlement n'est jamais cité. Par contre, quand il s'agit d'un aspect négatif, comme repousser la baisse d'impôts, là, c'est le Parlement qui est le seul responsable. Pas de trace du gouvernement. L'exemple présent est la feuille d'information reçue avec l'invitation à remplir sa déclaration fiscale. Ma question est donc de savoir si à l'avenir, le gouvernement va informer correctement la population en citant également le Parlement quand ce sont des montants en dessous de sa compétence financière. Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je vous promets que nous serons attentifs à l'avenir.
Réponse succincte, ministre des Finances.
Voilà, merci monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député est très satisfait. Nous avons donc terminé les questions orales du jour. Dès lors, nous pouvons passer à la présidence du gouvernement avec le point.
C'est donc la fin des questions orales ce matin au Parlement jurassien. 12 questions ont été posées. Le prochain Parlement aura lieu le 29 mars. Excellente journée à toutes et à tous.